Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la partie vocabulaire du module 111 au sujet de l'Alsace. C'est le fichier dans lequel je prends le temps de découvrir moi aussi le sujet du module et de sélectionner pour vous tout le vocabulaire, ou presque, qui nécessite d'être expliqué davantage pour vous faciliter la compréhension du sujet. Alors avant de commencer, laissez-moi vous dire que j'espère vraiment que ce module vous a plu, qu'il vous a fait voyager en Alsace et dans ses ruelles un petit peu mythiques. Car c'est vraiment un bout de France à découvrir, alors j'espère que vous aurez l'occasion d'y mettre les pieds. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va voir ensemble du vocabulaire présent dans le module mais qui n'a pas été expliqué ni détaillé. Donc l'objectif étant que vous compreniez le module au maximum et que vous puissiez emmagasiner du vocabulaire, ce qui est vraiment indispensable pour tout apprenant d'une nouvelle langue pour pouvoir comprendre mais aussi s'exprimer. C'est parti, on va commencer avec le premier mot qui est le mot résider. Dans la phrase, je sais que vous êtes par exemple très nombreux à résider en Allemagne. Alors ici, le verbe résider signifie habiter ou vivre dans un endroit particulier, en l'occurrence ici l'Allemagne. Donc ici, ça veut dire, ça indique que beaucoup de personnes vivent en Allemagne. Le mot suivant est le mot particularité dans la phrase « On voudrait te parler des particularités de cette région », à la fois particularité linguistique en termes de langue et particularité historique, parce que c'est une région qui a une histoire assez particulière. Donc dans cette phrase, le mot « particularité » désigne des caractéristiques ou des traits spécifiques qui distinguent cette région des autres régions. Donc effectivement, ici, ça peut inclure des éléments liés à la langue, comme des dialectes ou des expressions spécifiques. Ça peut aussi être des aspects historiques qui vont rendre cette région unique, d'accord ? Comme par exemple des événements marquants ou des influences culturelles aussi. Donc en résumé, les particularités, ça évoque tout ce qui fait que cette région est spéciale et qu'elle est différente des autres régions. Ensuite, le mot incontournable. Dans la phrase, on te parlera de quelques sites incontournables, quelques sites à ne pas manquer. D'ailleurs, c'est une phrase qui est présente dans le fichier prononciation. Donc dans cette phrase, le mot incontournable signifie qu'il s'agit de sites tellement importants, tellement remarquables, qu'ils doivent absolument être visités. Donc en d'autres termes, ce sont des lieux remarquable, ce sont des lieux essentiels à voir. Le mot qui suit est le mot délimité dans la phrase « Elle est délimitée par le Rhin à l'est et par le massif des Vosges à l'ouest ». Donc dans cette phrase, le mot délimité signifie que la région, elle est clairement définie, clairement encadrée par des frontières naturelles, donc ici le Rhin à l'est et le massif des Vosges à l'ouest. Donc ça veut dire qu'il existe donc des limites géographiques qui distinguent cette région des autres régions. Voyons maintenant le mot suivant qui est une région historique. Dans la phrase, aujourd'hui l'Alsace c'est une région historique, ce n'est plus une région administrative. Donc dans cette phrase, région historique fait référence à une région qui a une identité culturelle, qui a des traditions et qui a une histoire du coup bien distincte. Donc souvent, c'est une histoire qui est liée à des événements marquants ou à des caractéristiques particulières comme vous avez pu le voir dans le module. Et du coup, ça signifie que l'Alsace est reconnue pour son patrimoine, pour son évolution au fil du temps et également pour son importance, pour sa place vraiment particulière dans l'histoire. Donc au-delà de son statut administratif qu'elle a pu avoir. Ensuite, voyons ce que signifie le mot chef-lieu. Dans la phrase, le chef-lieu était Strasbourg, la ville de Strasbourg. Alors ici, dans cette phrase, chef-lieu, ça désigne la ville principale ou le centre administratif d'une région, d'un département, Donc Strasbourg, c'est la ville qui sert de référence, de point central en fait, pour les affaires administratives dans la région. Donc c'est souvent là que se trouvent les institutions gouvernementales, les services publics les plus importants, etc. Le mot suivant est le mot « englobe » dans la phrase. Donc aujourd'hui, le Grand Est, c'est une grande région dans le nord-est de la France et elle englobe l'ancienne Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Donc dans cette phrase, le mot « englobe », ça signifie que le Grand Est inclut ou recouvre l'ancienne Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Donc ça indique que ces trois régions font partie intégrante du Grand Est. Donc en d'autres termes, eh bien englober implique une notion en fait d'inclusion, de rassemblement de plusieurs éléments au sein d'un tout, d'un même et seul élément. Donc ici la région Grand Est. Dans la phrase suivante, j'ai choisi les mots montagne, plaine et colline afin qu'on les explique un petit peu et puis qu'on les distingue. Donc dans cette phrase, eh bien le mot montagne, ça fait référence en géologie aux formations les plus élevées, comme par exemple les Vosges, dont Johan nous a parlé dans le module. Bon, ce sont des montagnes qui sont assez petites, assez basses, par rapport à d'autres chaînes de montagnes, comme par exemple les Alpes ou les Pyrénées. Et ces chaînes de montagnes sont souvent recouvertes de forêts, et ça offre vraiment des paysages assez variés, lorsqu'on y va en été par exemple, ou en hiver. Ensuite, les collines, disons que c'est le deuxième niveau après les montagnes. Ce sont des élévations de terre qui sont plus petites du coup que les montagnes. Elles sont souvent arrondies. Et dans cette phrase, eh bien, elles sont associées à des vignobles. Dans la phrase que Johan a citée dans le module, ça suggère ici eh bien, un paysage assez fertile et, comme il l'a dit, assez pittoresque. Et enfin, les plaines, eh bien, ce sont des étendues de terre qui sont relativement plates et assez basses par rapport eh bien, aux montagnes et aux collines. Et du coup, elles peuvent être propices à l'agriculture, mais également à l'habitat. D'accord ? Parce que du coup, ce sont des zones assez, disons, accessibles. Voyons maintenant ce que signifie « état très centralisé » dans la phrase. C'est assez difficile d'avoir des données exactes parce que la France est un état très centralisé et on souhaite que le français soit l'unique langue. Donc dans cette phrase, état centralisé, ça veut dire que le pouvoir et la prise de décision sont centralisés au niveau national, d'accord, plutôt que délégués à des autorités locales ou régionales. Donc ça peut impliquer que du coup les politiques et les directives, elles sont vraiment émises par le gouvernement central et donc les décisions qui vont concerner par exemple les aspects tels que la langue, la culture, eh bien elles vont être uniformisées à l'échelle du pays. Donc dans ce contexte, cela pourrait également expliquer les difficultés à obtenir des données précises parce que du coup les informations, elles peuvent être gérées de manière centralisée et non diversifié. Dans la continuité, voyons maintenant ce que signifient les langues régionales. Dans la phrase, on souhaite que le français soit l'unique langue, donc on a toujours mis un peu de côté les langues régionales, comme celle-là. Donc dans cette phrase, eh bien, langue régionale, ça fait référence aux langues qui sont parlées dans des régions spécifiques d'un pays, donc en dehors de la langue officielle ou nationale, en l'occurrence ici le français. Donc ça implique que ces langues, elles ont souvent été négligées, beaucoup moins valorisées par rapport à la langue principale. Et du coup, c'est ce qui peut affecter leur usage et leur transmission. En France, effectivement, il y a pas mal de régions dans lesquelles on retrouve des langues particulières, comme en Bretagne, justement en Alsace, et d'autres régions dans le sud de la France. Voyons maintenant ce que signifie l'expression « âge d'or ». Dans la phrase, pendant le Saint-Empire romain germanique, entre le XIIe et le XVIIe siècle, l'Alsace a connu un âge d'or aussi bien culturel qu'économique. Donc cette expression, elle désigne une période de prospérité, une période de développement et de réalisation remarquable, disons, dans des domaines particuliers. Donc dans le contexte de la phrase, Ça signifie que l'Alsace, eh bien, elle a connu une phase particulièrement favorable entre le XIIe et le XVIIe siècle, à la fois sur le plan culturel, comme par exemple les arts, la littérature, la science, que sur le plan économique, par exemple le commerce, l'industrie, etc. D'accord ? Donc cette période, elle est souvent caractérisée par une effervescence, une créativité et par conséquent une amélioration des conditions de vie. Le mot qui suit est le mot prospérer. Donc prospérer dans la phrase Strasbourg en particulier, c'était une ville qui a énormément prospéré. Alors ici, ça veut dire que Strasbourg a connu une croissance, un développement, un succès important, que ce soit sur le plan économique, comme je viens de vous le dire, culturel ou encore social. Donc ça suggère que la ville, elle a évolué positivement et du coup, eh bien, elle a pu améliorer sa situation au fil du temps. Le mot qui suit est le mot épidémie. Donc ça, ce mot, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, mais bon, ça ne coûte rien de faire une petite piqûre de rappel, comme on dit. Donc c'est dans la phrase, on a eu un certain nombre de difficultés, notamment les guerres, les épidémies, notamment de peste noire, des pillages, etc. Donc on a eu un âge d'or et ensuite quelques difficultés. Donc dans cette phrase, le mot épidémie, il fait référence à des maladies qui se propagent assez rapidement, qui touchent beaucoup de personnes dans une région donnée. Donc dans le contexte de ce module, ça évoque spécifiquement des épidémies historiques, comme la peste noire, qui ont causé des ravages, des pertes humaines assez importantes et qui du coup ont contribué aux difficultés que la société a rencontrées à cette époque. Le mot qui suit est le mot annexé. Dans la phrase, l'Empire allemand a annexé l'Alsace et une partie de la Lorraine. Alors ici, annexé, ça signifie que l'Empire allemand a pris le contrôle de ces territoires et il les a intégrés à son propre territoire. Donc c'est souvent fait par la force ou à la suite d'un traité, par exemple, et ça implique une appropriation officielle de ces régions qui va carrément modifier leur statut politique et leur statut juridique. Le mot suivant est le mot vainqueur dans la phrase. À la fin de la Première Guerre mondiale, la France étant du côté des vainqueurs, eh bien l'Alsace est redevenue française. Donc vainqueur, ça désigne les pays ou les forces ici qui ont remporté la guerre. Donc on utilise également ce mot dans le sport lorsque le sportif remporte la course ou la compétition. Donc ici, dans ce contexte du module, ça signifie que la France, en tant que nation victorieuse, eh bien, elle a pu récupérer les territoires qu'elle avait perdus, dont l'Alsace, à la suite de ce conflit. Voyons maintenant ce que signifie rivalité ancestrale dans la phrase. C'est un territoire qui montre la rivalité ancestrale qu'il y a eu entre nos deux pays, et ça a forcément un impact sur l'identité des habitants. Alors ici, ça signifie qu'il existe une longue histoire de conflits, de tensions, voire même de compétition du coup, entre les deux pays. Donc cette rivalité, effectivement, elle peut du coup influencer la façon dont les habitants de chaque pays se perçoivent, se définissent, et effectivement, ça peut affecter leur identité culturelle et leur identité nationale. Donc ça symbolise aussi des luttes passées, des héritages historiques qui laissent forcément une empreinte sur la société actuelle. En résumé, ça souligne vraiment l'impact des conflits historiques sur les identités contemporaines. Le mot qui suit est le mot cliché. Dans la phrase, on dit souvent, bien sûr, c'est un cliché, c'est général, mais que les Alsaciens sont un peu à part, en fait, par rapport au reste de la France. Alors, ce mot cliché, eh bien, ça désigne une idée, une image qui est reçue, souvent simpliste ou même stéréotypée, qui généralement est acceptée, sans être remis en question. Et ici, eh bien, ça signifie l'idée selon laquelle les Alsaciens sont un peu à part. C'est-à-dire que ce cliché, en fait, est généralisé, il est accepté. D'accord, mais effectivement, il ne peut pas vraiment refléter non plus la complexité et la diversité de la réalité. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un cliché. Donc en d'autres termes, même si cette perception elle est courante auprès des gens, eh bien on peut tout de même marquer et manquer de nuances. Le mot qui suit est le mot colombage. Dans la phrase, il y a une ambiance un peu nostalgique dans Strasbourg avec toutes ces maisons à colombage, les canaux, les tavernes traditionnelles. Donc colombage, ça désigne une technique de construction où les murs sont faits de poutres en bois. Donc elles sont souvent remplies d'un matériau comme de l'argile ou de la brique. Et dans la phrase, eh bien, ça fait référence aux maisons typiques de Strasbourg qui présentent ce style architectural assez traditionnel. Donc le fait de voir les poutres des maisons. Et l'évocation du colombage, ça contribue vraiment à créer une ambiance nostalgique. Et ça évoque vraiment l'histoire et le charme de cette ville. Voyons maintenant ce que signifie symbole de la réconciliation. Donc dans la phrase, et c'est un peu le symbole de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Alors ici, ça fait référence à l'idée que l'architecture et le quartier allemand incarne une nouvelle relation pacifique et constructive entre la France et l'Allemagne. Alors, je vous ai pas cité le nom du quartier, donc c'est Neustadt, je crois. Je sais pas si je le prononce très bien en allemand, mais ça m'étonnerait. Donc ici, voilà, ça signifie que ces bâtiments hérités de l'influence allemande représentent non seulement un partage culturel, mais aussi un effort commun, du coup, pour surmonter les tensions historiques, les tensions passées, et par conséquent, essayer d'établir des liens plutôt amicaux entre les deux nations. Donc, c'est une manière vraiment de montrer comment l'architecture peut être un reflet de l'évolution des relations entre les pays. Le mot qui suit est le mot pittoresque. Dans la phrase, tu peux aller voir Colmar, qui est une ville splendide. Mulhouse, il y a plein de villages pittoresque à voir. Alors ici, ce mot désigne des villages qui sont charmants, qui sont attrayants et qui offrent un beau cadre visuel, souvent en raison, eh bien, justement, de leur architecture, de leur paysage et, par exemple, également de leur ambiance. Donc ça évoque des lieux qui sont visuellement intéressants à voir et qui peuvent susciter des émotions, voire même de l'émerveillement. Donc je vous invite vraiment à y aller si vous passez dans la région. Ensuite, on a le mot gondole. Dans la phrase, ils te font penser à Venise, même s'il n'y a pas vraiment de gondole. Alors ici, ce mot, il fait référence à, vous savez, les embarcations traditionnelles que l'on retrouve à Venise. C'est une barque longue, assez étroite, et qui était souvent utilisée pour naviguer sur les canaux de la ville. Donc l'utilisation du terme dans ce contexte, ça suggère ici que même si l'endroit évoque Venise, il n'y a pas vraiment ces bateaux typiques qui peuvent souligner une ambiance ou un décor inspiré de la ville sans en reproduire entièrement les éléments. Ensuite, le mot œnophile. Donc dans la phrase, donc pour les œnophiles, c'est parfait. Ici, ça désigne une personne qui aime le vin, qui s'intéresse à sa dégustation et à ses différentes variétés. Voyons maintenant ce que signifie cépage dans la phrase « Il y a 7 cépages célèbres en Alsace ». Alors ici, eh bien, ça désigne une variété de vignes cultivée pour produire du raisin. Et donc chaque cépage a ses propres caractéristiques de goût et d'arôme. Donc la phrase ici, elle veut dire qu'il existe donc 7 variétés de raisins reconnues et appréciées en Alsace. Voyons maintenant ce que signifie le mot viticole. Donc dans la phrase, on t'a dit que l'Alsace était une région viticole. Alors ici, dans cette phrase, ce mot se rapporte à la culture de la vigne et à la reproduction, à la production, pardon, de vin. Donc dire que l'Alsace est une région viticole, ça signifie qu'elle est connue pour ses vignobles et sa production de vin. Donc c'est une région où la viticulture joue un rôle assez important à la fois dans l'économie et dans la culture locale. Voyons maintenant ce que signifie un tic de langage dans la phrase. Par exemple, quelqu'un peut dire « bon, comme dit, on se voit après, comme dit ». Donc ici, c'est un tic de langage et ça désigne une habitude verbale ou une expression répétée de manière automatique. Donc souvent sans y penser. Ça peut inclure des mots, ça peut inclure des phrases, que l'on utilise fréquemment. Des hésitations comme « ou « ben », donc vous devez en entendre pas mal dans les audios que l'on fait généralement, puisqu'on recherche nos mots, on réfléchit à nos mots avant de parler. Ça peut être aussi des répétitions de certains, voilà, de certains mots, de certaines constructions grammaticales. Et ces tics, parfois, effectivement, peuvent nuire à la fluidité de la communication, mais généralement, ils sont faits involontairement par les personnes qui parlent. Et voilà, c'était le dernier mot de ce fichier vocabulaire du module 111. Alors j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a aidé à accéder davantage au sens des phrases et plus généralement, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le module. Donc pensez bien à consulter les autres fichiers et n'hésitez pas à nous contacter sous le module. On se fera comme d'habitude un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite bon courage pour l'avancement de votre apprentissage et je vous dis à bientôt.